Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit parce que c'est notre premier sujet de discussion ce matin. On va voir qu'est-ce qui vous empêche de dormir parce que la statistique est sortie hier, un Canadien sur deux, près de 50% de la population en fait, et puis ça inclut beaucoup de Québécois bien sûr, a de la difficulté à dormir depuis le début de la pandémie. Prend plus de somnifères. En fait, on n'en a jamais autant pris qu'en ce moment. Et les raisons pour lesquelles on a le sommeil léger ou troublé sont assez nombreuses. Puis je pense que vous allez toutes me les énumérer parce qu'en même temps, bon, chacun a son histoire reliée à des mauvaises nuits. Il y en a des fois, puis il y en a un hier qui l'a admis publiquement en point de presse hier après-midi. C'est le directeur général Marc Bergevin du Canadien de Montréal qui apparemment a eu des nuits très courtes ou très longues, selon son propre aveu, avant de prendre sa fameuse décision vis-à-vis de Claude Julien. On écoute Marc Bergevin.
Te dire que j'ai eu une nuit courte plus longue, parce que quand tu dors pas vraiment, la nuit est longue, mais ce matin, très tôt, j'ai communiqué avec Claude et Kirk pour lui annoncer ma décision.
Alors, c'est ça. Lui, il a eu la nuit longue, finalement. C'est sûr que quand tu dors pas, tu trouves le temps très long. C'est là où tu pourrais penser à des très bonnes stratégies pour mieux utiliser tes trios ou trouver des stratégies pour compter, rentrer la POC dans le but. Mais ceci est un autre sujet. Parlons vraiment de votre sommeil et surtout, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? J'aimerais beaucoup le savoir. Je pense qu'on en a tous effectivement des problèmes d'insomnie et j'allais dire même d'anxiété reliée à l'insomnie. Il y a des gens même qui peuvent se rendre très malades à cause de ça. On va en discuter tout de suite avec un invité, mais je vous donne auparavant nos numéros pour nous joindre puis me raconter un peu vos nuits. 514-790-9850 de l'extérieur, partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Roger Godbout est professeur au département de psychiatrie à l'Université de Montréal. Il est psychologue. Il est également directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil à l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Bonjour, Roger Godbout.
Bonjour, Mme Maréchal.
C'est assez inquiétant hein, ce qu'on apprenait hier, comme quoi qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Là, cette proportion de gens qui dorment mal au pays a doublé avec la pandémie. Je pense que c'est presque compréhensible qu'on ait tous des nuits mouvementées. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça soit autant, M. Godbout?
Bien, c'est... Autant peut-être pas, mais qu'il y a une augmentation significative, oui, parce que c'est pas surprenant. Dès qu'on arrive à des périodes de conflits, de contraintes, des périodes difficiles, que ce soit sur le plan personnel ou le plan collectif, on réagit beaucoup avec le sommeil. Le sommeil, c'est un genre de baromètre. Quand ça va pas bien, on dort pas bien. Et puis c'est ce qui est arrivé à la plupart des Canadiens et des Québécois.
Ouais, vous dites en temps normal, Roger Godbout, il y a quand même à peu près le quart des Québécois là, qui se plaignent qu'ils n'ont pas un sommeil réparateur. Hein. C'est toujours la qualité du sommeil qu'on regarde.
Là, Oui, exactement. Vous faites bien de le mentionner. C'était déjà un problème. 25 % 33 % des Québécois, des Canadiens, même, je pense, au niveau du monde occidental, là, qui se plaignent significativement de problèmes de sommeil. On calcule le diagnostic en gros là, en disant qu'on passe 3 mauvaises nuits par semaine pendant 3 mois consécutifs. Et puis ça veut dire prendre plus que 30 minutes pour s'endormir, être réveillé pendant plus que 30 minutes par nuit. Et ça, c'était déjà assez prévalent. Ça l'est encore plus parce qu'on est plus soucieux, on a des craintes, on a des contraintes qui varient. On se demande est-ce que l'école va être ouverte ou fermée, nos vieux parents, l'accès aux services, tout ça, ça fait des préoccupations. Et puis, il y a une augmentation de préoccupations collectives. On en parle beaucoup dans les journaux, dans les différents médias. Fait que ça occupe beaucoup de place. Peut-être trop de place, à la limite, dans l'esprit des gens. Et il y a cette mauvaise habitude qu'on a tous, je pense, de ne pas s'aménager. Une petite pause avant d'aller se retirer pour dormir. Un petit 30 minutes là, d'activité plus anodine pour se calmer le pompon un petit peu, se détacher des choses qui nous préoccupent, puis se mettre en mode d'acceptation du sommeil. Parce que c'est un peu bête à dire, mais pour pouvoir dormir, il ne faut plus qu'il y ait d'éveil. C'est un peu drôle à dire comme ça. Mais c'est un peu comme ça que fonctionnent les somnifères, d'ailleurs. Les somnifères, ce que ça fait, ça baisse le niveau de vigilance. Et là, si c'est le bon moment, bien, le sommeil va s'inviter, va s'installer.
J'adore votre terme « mode d'acceptation du sommeil ». C'est très bon parce que c'est vrai qu'il faut accepter le fait de se mettre un peu au neutre, en position horizontale d'abord, puis de se laisser aller au sommeil. C'est un peu ça, finalement. Est-ce que c'est, vous diriez, un manque de lâcher prise, le mot, en guillemets, très à la mode, là, qui me plaît pas toujours, mais dans ce cas-ci, on a l'impression que pour bien pouvoir entamer une phase d'endormissement, il faut quand même un certain lâcher prise du corps, oui, bien sûr, puis et du mental, nous dirait Bergevin.
Oui, c'est ça, puis il y a d'autres. Il y a lâcher prise, mais ce que j'aime moins dans le lâcher prise, c'est comme c'était une volonté. Premièrement, on ne peut pas se forcer à se détendre. Si quelque chose nous énerve, ça nous énerve, ça nous envahit. Si on veut dormir, ça ne donne rien de se forcer. Il faut que je dorme, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Mais il faut se rendre disponible, par exemple. Pour se rendre disponible, ben, il faut se mettre dans une situation, autant dans notre environnement que mentalement, qu'il puisse accepter le sommeil. C'est-à-dire qu'on fait une activité lente, on va détacher de ce qui nous stimule, mettre dans la case, laisser dans la case éveil ce qui appartient à l'éveil. Notre téléphone, le journal, la télé, la radio, les discussions, même agréables, c'est des choses qui appartiennent au jour, ça. Quand on se prépare à dormir, on va aller se coucher pour dormir, on fait des choses plus calmes, des lectures qui sont plus anodines, dessiner, lire, faire un mot croisé. Si on est bon là-dedans, si on n'est pas bon, ça ne marchera pas. Faire des choses qui sont plus calmes un peu, se détacher, des exercices qu'on peut faire, respiration lente, il y a plein de choses dont on pourra parler, mais il faut se rendre disponible. Et puis, si c'est le bon moment, ben, ça va fonctionner. Puis, le bon moment, c'est quand? C'est notre heure préférée normalement de coucher, comme quand on est en vacances ou en pause ou pas de travail. Ça ressemble un petit peu à ça.
Vous diriez, on a tous une heure qui serait propice à un meilleur endormissement? Ouais.
Ah oui, il y a des types du soir, des types du matin, des gens qui préfèrent, qui vont être meilleurs à travailler le matin. Moi, quand je me lève à 5h30, je travaille, je suis très allumé, ça fonctionne très bien. 9h30, 10h, rendu le soir, je suis très, très bon. Je fais des choses justement qui sont plus calmes, puis je ne vais pas me forcer, ça va bien fonctionner. Parfois, on a un deuxième coup d'énergie, puis on est debout pour la nuit à travailler, ça peut arriver parfois aussi. On a chacun notre style. Il y a des couches tard, des couches tôt, des lèvres tard, des lèvres tôt. Donc, à travers ça, il peut y avoir des gens qui sont des courts dormeurs, des gens qui sont des longs dormeurs, peu importe à l'heure qu'on se couche. Puis souvent, on peut bousculer ces habitudes-là par nos horaires imposés de jours de semaine, quand on est au travail ou à l'école. On s'impose ça. La fin de semaine, là, on se laisse aller, puis on reprend un rythme qui est plus proche de ce qu'on voulait, et même, on va même compenser pour ce qu'on a perdu pendant la semaine.
Oui, vous dites court ou long dormeur. Est-ce qu'il y a un minimum d'heures de sommeil pour tout le monde un peu, ou c'est vraiment du cas par cas?
Bien, c'est un peu du cas par cas, mais il y a des limites extrêmes, je dirais. Ouais. La recherche nous montre que personne ne peut dormir sans coup férir moins de 4 heures. Puis ceux qui disent qu'ils dorment moins de 4 heures, je les crois pas.
C'est vrai?
Ça fonctionne pas. Les gens qui le font vont le faire pendant un certain temps, quelques semaines, mais ils vont se faire rattraper par la suite. Ils vont moins bien fonctionner pendant un jour. Ou on va découvrir, puis c'était pas une cachette de leur part, mais on va découvrir qu'il y a des petites siestes ici et là sans trop s'en rendre compte, ce qui fait en sorte que le sommeil était un petit peu plus haut que ce qu'on pensait. Maintenant, quand on parle de courts dormeurs, c'est les gens qui dorment habituellement moins de 6 heures. Et puis on dira pas qu'ils sont insomniaques parce qu'ils n'ont pas de plainte le jour. Alors, une plainte d'insomnie, c'est de dire « je dors peu » et ça m'affecte pendant la journée. Je suis moche, je suis maussade, je suis irritable, je suis impulsif. Je perds la mémoire. Là, on peut penser qu'il y aura peut-être de l'insomnie. Et puis, à l'extrême, long aussi, hein, des gens qui dorment très, très, très longtemps. Quand on est rendu à 12 heures, 13 heures de sommeil par nuit, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien, là, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique.
OK. Parce qu'il y a des gens, je pensais justement, là, je suis en train de lire, Mario m'écrit, puis il me dit que lui, il passe des journées, en fait, des nuits complètes, là, sans dormir du tout, là, depuis les derniers mois. Ça, c'est de l'insomnie chronique, quasiment.
Il y a différentes possibilités. S'il dort 6-7 heures ou 5-6 heures pendant la journée, c'est peut-être quelqu'un qui a un cycle inversé. Ça dépend de son histoire de travail. Est-ce qu'il a travaillé sur des corps de travail alternants, des shifts, comme on dit en anglais? Est-ce que vraiment il dort 0-0-0? En laboratoire, on a pu constater parfois que les gens vont quand même dormir un petit peu. Même
oui, ça, c'est un bon point. Ouais. Moi, j'avais déjà été... j'étais curieux, j'avais toujours un peu eu des problèmes d'insomnie, comme bien des gens. Mais des fois, on a l'impression qu'on dort pas, alors qu'on dort quand même un peu. J'étais allée tester la chose à la clinique du sommeil du CHUM. Puis finalement, le résultat, c'est que j'avais fini par dormir quand même 5h30 alors que j'avais l'impression que je dormais beaucoup moins. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent peut-être par votre clinique du sommeil aussi qui apprennent avec bonheur parce qu'on est content finalement d'apprendre qu'on dort malgré tout, même si on n'en a pas l'impression.
Oui.
J'imagine que vous avez déjà vécu ça avec vos patients,
Roger. Souvent, quand ils viennent, quand ils viennent au laboratoire, ils vont mieux dormir qu'à la maison parce que sont pris en charge. Ouais. Il n'y a pas aussi les conditions adverses à la maison. De la chicane, une chambre trop chaude, une chambre trop bruyante, un animal de compagnie qui nous dérange. Vous savez que les animaux de compagnie, c'est la troisième cause de mauvais sommeil pour les gens qui vivent hors de l'île de Montréal. C'est dans les grandes causes parce qu'un chien, ça fait du bruit, toutes sortes de bruits incongrus aussi, comme les humains peuvent en faire parfois. Mm. Ça boue, ça grogne, ça fait des petits vents, etc. Les animaux, en général, c'est pas une bonne chose. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut mal dormir à la maison. Quand on vit au laboratoire, on va dormir un peu mieux. Puis aussi parce qu'on est accompagné, pris en charge par des gens qui font attention à soi, qui nous bichonnent, ouais. Ça se passe bien. Ça nous permet, par exemple, de voir s'il y a des problèmes de sommeil primaire, je dirais en guillemets, l'apnée du sommeil, des mouvements périodiques des membres au cours du sommeil, toutes sortes de problèmes comme ça qu'on peut détecter. Mais le vrai témoignage, c'est la personne elle-même qui va me dire « je dors mal et ça fait que je fonctionne mal le jour » ou pendant ma période principale d'éveil. Là.
Ouais.
La personne qui dit qu'il dort 0,00 minutes pendant la nuit, j'aimerais bien pouvoir enregistrer ça. Puis c'est peut-être vrai qu'elle dort très, 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 très peu, mais possiblement, probablement, un peu de sommeil là-dedans. Puis qu'est-ce qui se passe au cours des heures suivantes pendant la journée, comment ça se passe? Parfois, on peut être surpris.
Effectivement. On a Sylvain qui nous appelle au 514-790-9850. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Avez-vous des problèmes à dormir depuis les derniers mois?
Depuis le week-end passé. Avant ça, oui, puis comme j'imagine tout le monde par rapport à la pandémie, que ça stresse, mais en ce moment, c'est de l'anxiété. J'ai eu le malheur d'appeler Étoile 4141 pour un rassemblement d'un chalet en face de chez nous, de 4 véhicules.
Ouais.
Un policier de la ville m'a appelé. Là, il m'a rappelé par après. Ça, c'est vendredi passé. Là, il me rappelle, il m'a dit que tout est beau. Le lendemain, je prends une marche. Il y a un cinquième véhicule qui se rajoute. Je suis encore les 3-4-1-4-1. Le même policier m'a très bien fait voir. C'est un policier de la SQ, là.
Ouais.
Il m'a très bien fait voir que j'avais plus à rappeler pour ça. Il fallait que je me réfère à un site Internet de propriétaires locataires puis qu'ils ne se déplaceraient plus pour ça, puis de là, chez prise.
Uh-huh.
J'ai communiqué mon événement là, à la déontologie policière, là, son sol là-dessus. Mais là, en ce moment, je peux même plus me permettre, là, ils peuvent être 8 chars de ce chalet-là, je peux rien dire, parce qu'ils veulent le bien faire voir. Ils m'ont demandé mon adresse.
Puis vous, ça vous donne de l'anxiété, toute cette situation-là, j'imagine.
Je me couche, je me relève, je me recouche, je me relève. Oh, ben, je suis aperçu, j'ai dormi, mais je me relève.
Ouais.
Écoutez, là, je suis chez nous, puis là, je me dis, coudon, on verra jamais de ce virus-là. Là.
Ouais. Et donc, ça vous stresse. Oui, ben merci, Sylvain.
Moi, depuis le début de la pandémie, là, que je suis toujours à l'affût, que je respecte tout, j'essaie de sortir aux 10 jours, et je vais à l'épicerie du village pour éviter de garder. Puis,
mais le non-respect des règles par les autres, c'est ça qui vous empêche de dormir, finalement, je comprends bien. Roger Godbout, là-dessus, peut-être, pour d'autres, comme Sylvain, là, qui vivent ce même genre de situation, puis il y en a, là, ouais.
Souvent, dans des problèmes d'insomnie comme ça, il y a un événement déclencheur.
Mm-hmm.
Parce que si, bon, il y a un événement déclencheur, mais ça devait couver dessous quand même depuis le début de la pandémie, peut-être. Un peu plus de stress, un peu plus d'anxiété. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui arrive à mes enfants ou à mes parents, à mes amis? Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à des soins? J'en ai besoin.
Mm-hmm.
Est-ce que les gens autour de moi vont me contaminer? Et puis, c'est un genre de j'ai juste le mot build-up en tête, là. Ça s'accumule, ça.
Mm-hmm.
Et puis, moi, il y a même un déclencheur qui c'est la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Et puis, on se met à mal dormir, puis on est pris un petit peu avec ça, puis ça fait ça vicieux. Parce que plus qu'on dort mal, plus notre tolérance au stress et à l'incertitude diminue, plus qu'on dort mal.
Oui, on va s'arrêter ici. Roger Godbout reste avec nous. Il est professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Il est directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Nos numéros pour nous joindre partout au Québec de l'extérieur de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. De Montréal et de la grande région autour, couronne nord-sud, vous faites le 514-790-9850. Vous pouvez m'écrire, bien sûr, à isabelle@985fm.ca. On essaie de voir, là, qu'est-ce qui vous empêche de bien dormir? À tout de suite, tout le monde.
À trop attendre le sommeil, je fatigue. La nuit blanche m'offre ses pensées noires. Et le vide occulté en plein jour, éclairé en pleine nuit. Insomnie, insomnie. Oh, insomnie, la ville dort. Je vois les ombres comme des corps.
Alors, nous parlons de votre qualité de sommeil. Rémi est avec nous. Bonjour, Rémi.
Bonjour, merci pour toute l'équipe.
On vous écoute?
Oui, bon, mais c'est ça. Moi, ça a commencé, ça fait 4-5 ans que j'ai des problèmes de sommeil. Ben, juste avant ça, j'ai fait 11 ans de sécurité de nuit. C'est vraiment dangereux de travailler de même de nuit pendant 11 ans, je dirais.
Ouais.
Là, ça fait 2 ans que je travaille de jour, un peu de soir, en technicien en traitement d'eau. Sauf que là, avec la COVID qui est arrivée, moi, je me promène de maison en maison, 7 clients par jour, 5 jours semaine. J'ai moins de 15, je suis généreux en maudit en disant 15%, là, moins de 15% qui portent le masque. Il y en a beaucoup qui me demandent s'ils devraient le porter en ma présence. Je trouve ça quand même un peu ridicule, rendu ce qu'on est après un an, d'encore me poser la question s'ils devraient le mettre.
Ouais, je comprends.
Je stresse, là, j'ai peur de le ramener à la maison. J'ai 3 enfants. Ma femme a une santé fragile. Elle a eu la thyroïde aux 2 derniers, le diabète de grossesse extrêmement sévère au dernier. Ça me stresse. Je me lève 2-3 fois dans la nuit. J'ai des sommeils vraiment un peu...
Fait que vous aussi, finalement, c'est le non-respect des règles chez les gens que vous devez côtoyer dans le cadre de votre travail.
Ah oui, tu sais, quelques fois encore, le demander après un an, « Devrais-tu porter mon masque? » Ben, c'est pas une question à poser.
Ouais.
On s'en sortira pas si les questions continuent de même, là.
Ouais, merci.
Généreux à 15%, là.
Merci beaucoup, Rémi. Daniel est avec nous. Bonjour, Daniel. Comment dormez-vous? Est-ce que vous avez... J'imagine, on a tous des raisons de moins bien dormir en ce moment, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche de dormir spécifiquement?
Depuis environ le mois d'août, septembre, depuis que la pandémie, la deuxième vague et tout ça, avec toute l'info qui se dit à la télé, toutes les opinions différentes, les vaccins et tout, on va les avoir, ça s'en vient. Mais moi, je dors mieux depuis quelques jours parce que j'ai décidé à partir de 18 heures, de fermer toutes les informations par rapport à la pandémie.
Mm-hmm.
Puis là, le soir, quand je me couche, j'ai moins la tête pleine, donc je dors un peu plus. Ça va un peu mieux. Je pense qu'il y a trop d'infos, le cerveau, il y en a trop dans la tête. Faut se distancer un peu de l'info qui est propagée partout.
Mm.
Je me mets un bon film, puis,
j'oublie
tout. Là.
Ben, vous avez raison. Est-ce que vous êtes réseaux sociaux? Avez-vous coupé ça un peu aussi? Ça, c'est une autre source d'inquiétude. Là, ça,
non. Moi, je ne suis pas réseaux sociaux. Ben, un peu pour la musique. J'échange de la musique, des films et tout ça, mais il n'y a pas de question de... Aussitôt que tu parles de pandémie, on va dire qu'en bon français, je zappe.
Vous décrochez.
Faut que les gens apprennent à décrocher de ça, parce que plus tu as d'infos, le cerveau, ça va sur le sommeil, ça va sur tout.
Ouais.
Ça rend les gens stressés. Il y a assez que quand on s'en va quelque part, puis le masque et tout, la distanciation, attendre en fil et tout ça, ça joue beaucoup sur le sommeil, je trouve. À 18 heures, quand je vous dis, j'arrête, là, puis ça m'aide le soir.
Ben, tant mieux, je pense que c'est un bon conseil. Roger Godbout, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est comme un truc là, qu'on vient de partager.
Pense que monsieur Daniel a adopté la solution idéale, justement, c'est d'essayer d'éviter les situations qui nous stressent. Parce que ce qui nous stresse, entre autres, on a parlé de deux, trois facteurs tout à l'heure, il y a aussi d'imprévisibilité. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas à qui on va faire face, et puis ça peut nous rendre insécures. Avec tout ce qui se passe, notre seuil de tolérance est un peu plus bas aussi. C'est ce que M. Rémy semble nous avoir dit. L'attitude à avoir, je pense, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que de choisir un peu, de choisir ce avec quoi on va se tenir informé, d'éviter le point de saturation, de dire, bon, j'en sais assez, c'est correct. Par contre, certaines personnes peuvent devenir un peu fascinées ou hypnotisées pour en savoir plus, pour essayer de sécuriser, puis ça a parfois l'effet inverse.
Mm-hmm.
On ne contrôle pas des messages, ça nous arrive sans qu'on puisse les critiquer, on en sait pas assez, c'est un petit peu difficile. Alors, la bonne attitude, c'est de prendre une distance de ça, se garder un moment exactement comme ce qu'on vient d'entendre pour se détendre, se décrocher un peu, passer à d'autres choses, changer de poste.
Vous n'avez pas fait, par exemple, une recherche dernièrement, Roger Godbout, à savoir est-ce que les gens qui suivent les règles et qui se tiennent avec des gens qui suivent bien les règles sanitaires dorment mieux que les complotistes, par exemple?
J'ai pas vu de données scientifiques à ce propos-là. Les gens qui se tiennent avec des complotistes, par exemple, ben, si c'est cohérent avec leur propre pensée, peut-être que ça leur causera pas de problème.
C'est rassurant, c'est ça.
De cohérence, de cohésion.
Ouais.
Et ça, la cohésion, c'est un facteur très important de sentir qu'on appartient à un groupe où est-ce que ça se passe correctement en fonction de nos propres désirs.
En fait, c'est d'être confronté ou d'être devant une crise qui nous empêche de dormir souvent, hein?
Oui, parce qu'on a vu ces augmentations-là d'insomnie après des crises ou des tragédies, les feux de forêt dans l'Ouest canadien il y a peu de temps, les inondations qu'on a connues il y a deux ans, tout ça, ce sont des situations qui ont causé des hausses d'insomnie chez des gens concernés et leurs proches. Donc, ça cause toujours cette situation-là parce que on est en situation d'insécurité, en situation aussi de non-contrôle de ce qui se passe, et puis d'un peu d'être dans la brume par rapport aux messages qu'on reçoit et comment les interpréter. C'est difficile. Le sommeil, encore une fois, c'est comme un baromètre. C'est le baromètre de notre bien-être. Si on ne dort pas bien, c'est qu'il se passe quelque chose de pas correct.
Donc, il faut s'en inquiéter. Il faut s'inquiéter aussi, sans doute, vous allez me dire, Roger Godbout, de la consommation qui augmente là, de somnifères. Il y a quand même à peu près 10 % des gens là, qui répondaient à cette enquête pancanadienne là, sur, sur 5000 personnes. C'est quand même un bon échantillonnage. Là, donc, on peut s'y fier. 10 % donc, des gens qui disent avoir des problèmes d'insomnie qui ont dit « Oui, j'ai dû augmenter ma consommation de somnifères. » Il y a quand même un risque à être dépendant d'un somnifère.
Bien, ce qui est plus inquiétant, c'est l'augmentation de la consommation d'alcool et d'autres drogues psychoactives. Ça, il y a plus de danger de ce côté-là, possiblement. Par contre, ça montre bien que la personne veut se prendre en main, veut prendre quelque chose pour mieux dormir. C'est sûrement pas la bonne façon, mais au moins, elle est consciente de ça.
L'alcool, est-ce que vous diriez que l'alcool est utilisé aussi comme somnifère? On boit parce que ça endort, c'est ça?
Très couramment, très couramment. Ben, ça nous endort, mais ça nous endort mal. Hein? Quand on prend trop d'alcool, moi, je suis pas trop courant, mais ceux qui ont pu essayer ça, prendre trop d'alcool pour le souper, par exemple, on dort pas si bien, on se réveille tôt, en chaleur, là, le lendemain matin, ça dérange beaucoup, beaucoup de choses. Les drogues psychoactives, ça peut être la même chose aussi, dépendant de ce que l'on consomme. La médication, si la médication est prise sous supervision médicale, ça peut être correct, parce que ça peut être pour passer un mauvais moment.
Ouais.
Donc, ça peut être d'une utilité bien, bien acceptable si ça nous aide momentanément. Mais au bout de 2-3 mois, il n'y a pas de raison à prendre encore un somnifère ou un hypnotique pour mieux dormir. Il faut aller chercher quelle est la cause vraiment de ça puis la régler.
Oui, mais malheureusement, souvent, c'est... Parce que là, on entend beaucoup la pandémie. Là, ça fait 12 mois que ça dure. Fait que ça devient une cause sur un terme assez long. Hein?
Oui, bien, c'est une cause. Ouais. La pandémie est la cause, mais c'est notre réaction à cette pandémie-là qui sur laquelle on peut intervenir. Prendre une distance, comme monsieur Daniel nous a illustré tout à l'heure, il y a des façons de faire pour que même si la pandémie est encore là, la cause personnelle pour laquelle on dort mal peut être...
Mais ça peut être une maladie, par exemple. Il y a beaucoup de gens là, qui sont malades, que ça soit... Quand on sait qu'il y a un Québécois sur deux là, qui doit faire face au cancer ou au cancer d'un proche, là, ça, c'est une raison importante de ne pas dormir. Les douleurs, beaucoup de Québécois, un des premiers problèmes de santé, là, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est les douleurs chroniques, souvent Absolument. Les maux de dos, et ça empêche de dormir. Alors, les gens, il y a des gens qui me témoignent de ça en ce moment, je lis leur courriel, puis en gros, je résume l'idée de 3-4 auditeurs, c'est qu'ils disent, moi, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai trop mal la nuit, seul un somnifère endort mon mal.
Oui, ben c'est ça, d'avoir mal, une douleur physique, effectivement, c'est la cause, c'est pas un problème de sommeil, c'est un problème de douleur. Par contre, il y a plein de causes. Par exemple, chez les enfants, ce que je vois beaucoup enfants adolescents, c'est des problèmes de reflux gastrique puis de brûlure d'estomac pendant la nuit. C'est relativement courant que ce qu'on pourrait penser. Et quand on fait le tour, bon, on voit un peu une question d'alimentation, d'habitude alimentaire, d'intolérance alimentaire, et c'est pas si rare que ça. Donc, il y a plein de facteurs comme ça. À la clinique, on fait toujours le tour des facteurs environnementaux, que ce soit la chambre à coucher elle-même, qui va être bruyante, trop éclairée, etc.
Oh, la lumière! Hein, là, vous mettez le doigt sur quelque chose, M. Godbout. Oui. La lumière, on n'est plus capable, on n'est plus dans le noir.
Effectivement, c'est très, très, très vrai. C'est difficile d'avoir ça et le bruit environnant. Dans les villes, dans les grandes villes, le bruit environnant est une cause de mauvais sommeil et de plaintes importantes. On pense aux avions, on pense au transport, les automobiles, la circulation.
Hey, chez nous, les déneigeuses à 3h du matin, t'as envie de dire, hey, ça recule, met de mauvaise humeur. Hein?
Exactement, c'est ça. Donc, le bruit, la lumière. Ouais. La lumière, on peut le contrôler en ayant des fenêtres qui sont bien, bien opaques. Il nous protège bien, ça peut bien fonctionner, puis ça aide énormément. Par contre, il faut s'exposer à la lumière le jour. C'est le contraste qui est important. Hein? Mm. C'est le contraste entre le jour et la nuit. En clinique, c'est ce qu'on fait aussi. Il faut réapprendre de ne pas faire des choses la nuit qu'on devrait faire le jour et inversement.
Ouais.
Donc, limiter les siestes le jour, éviter d'avoir de la lumière la nuit.
Il y a des gens aussi qui me disent, moi, je m'endors trop tôt. Je suis tellement fatiguée, je me traîne toute la journée. Là, à 8h du soir, je commence à m'asseoir devant la télé. On a ramassé le souper, on a fait la brassée de lavage, les enfants sont couchés. Là, 8h, pouf, les deux pieds sur le pot, je m'endors. Là, je lutte contre le sommeil, je ne vais pas dormir tout de suite. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là?
Bien, parfois, ça dépend quelle est l'organisation générale des 24 heures. En semaine, il faut voir ça dans les 24 heures. Quel est l'horaire de travail? Si c'est une personne qui se lève à 5 heures pour aller travailler, ça se comprend, parce que de dormir de 9 heures à 5 heures, c'est pas si bête que ça en un nombre total d'heures.
Mm-hmm.
Parfois, des horaires qui vont devenir l'ennemi numéro un du sommeil. Fait qu'il faut voir un peu comment on peut s'adapter. C'est le cas aussi pour les adolescents qui sont portés naturellement, physiquement, à se coucher et à se lever plus tard. Les horaires de classe ne sont pas adapté à cette tendance physiologique.
Ah, tellement.
Qui revient à la normale vers 24-25 ans quand on a plus de responsabilités sociales.
Ouais.
C'est très difficile pour eux aussi. Et les activités qui ont exagéré ça. Alors, porter à s'endormir à 11h, minuit, 1h du matin pour un adolescent, ça peut être normal, entre guillemets. Mais si en plus, on fait beaucoup de réseaux sociaux, qu'on fait du théâtre, du sport, qu'on est père aidant auprès de ses copains d'école, etc., puis qu'on se couche une heure ou deux heures plus tard encore, ben, le lendemain matin, quand on se lève, ça, c'est difficile.
Ouais, et vous avez dit un mot-clé ici. Sport, ce sera ma dernière question avant de vous laisser aller, là, même si j'aurais envie de prendre un abonnement avec vous, Roger Godbout, vous êtes tellement intéressant. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup le droit à bouger, là, on l'a beaucoup dit, c'est un des gros dossiers de cette pandémie, c'est-à-dire le fait qu'on est tous confinés à l'immobilisme, ça doit avoir un impact ça, sur notre sommeil.
Oui puis non, c'est-à-dire que ça nous empêche pas, personne ne nous empêche d'aller marcher. Puis le fait de faire du sport, c'est comme la relaxation, c'est comme autre chose, c'est qu'on pense à d'autres choses, on pense pas à nos soucis. Notre tête est ailleurs.
Mais marcher, c'est suffisant, ça?
Ben, ça peut être suffisant parce qu'on évacue, on marche, on va se promener, on voit d'autres choses, c'est avec un conjoint, avec un ami, on peut parler d'autres choses, on se vide la tête un peu, c'est relax, on peut pas, on n'a pas à performer en marchant, on parle pas de marche rapide ici, on parle d'une marche pour se détendre, mais de marcher une demi-heure en soirée, si on a les moyens de le faire, parce qu'on a quatre enfants.
Ça prend un chien, ça prend un chien.
Ça peut prendre un chien, on va un peu mettre notre canari dans son manteau, ça va être correct aussi.
Oui, non, un oiseau, ça marche pas, ça prend un chien, mais c'est Godbout. C'est ça la loi en ce moment. Si on veut sortir après 20 heures, ça prend un chien. En zone rouge, en tout cas. Merci beaucoup. Il y a Madeleine qui me dit qu'elle a un lièvre qui mange ses plates-bandes, puis ça la fait lever toutes les nuits. Là, je ne sais pas comment on peut l'aider, par exemple.
Après, je prends un permis de trappeur.
Roger Godbout, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Vous allez revenir à l'émission, c'est sûr. Je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup. Roger Godbout est directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Il est professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. On a appris plein de choses. C'est intéressant de parler de ça parce que le sommeil, c'est quand même assez majeur. Écoutez, hier, il y avait un documentaire où on disait qu'on dormait 27 ans dans notre vie. Je me disais, voyons, 27 ans, c'est donc bien long. Moi puis le sommeil, ça va pas forcément ensemble parce que on est tous comme ça. Tu sais, il y a des enfants, là, ils grandissent sans avoir vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Moi, quand j'étais petite, là, tu me disais, va te coucher, là, c'était une punition. Là, aujourd'hui, là, oh mon Dieu, c'est comme un rêve. Vous me direz comment vous voyez ça. Parlant de rêve, justement, on va en parler parce que vous avez vu là, les somnifères. Certains somnifères, d'ailleurs, créent certains cauchemars. Est-ce que vous connaissez vos rêves? Êtes-vous capable de vous réveiller avec une idée de ce à quoi vous avez rêvé? Puis quand on ne dort pas, est-ce qu'on fait des rêves éveillés? Toutes ces questions, bien sûr, et vos rêves, vous me les dites au 514-790-9850. À tout de suite. Évidemment, on parle de sommeil et pas très loin, bien sûr. Il y a les rêves tout de suite. Les questions reliées aux rêves arrivent vite. Je trouvais que c'était intéressant de poursuivre notre discussion sur votre insomnie ou en tout cas votre qualité de sommeil avec la spécialiste des rêves, Nicole Graton. On l'a souvent eue à l'émission. Elle est conférencière, elle est directrice de l'École internationale des rêves qu'elle a fondée dans les années 90. Et elle est membre de l'Association internationale pour l'étude des rêves. Oui, il y a cette association. Elle a donné beaucoup de conférences un peu partout. Elle a écrit plein de livres. Bonjour, Nicole.
Bonjour, Isabelle.
Alors, on vient de parler avec un spécialiste là, qui vient de nous dire qu'effectivement, qui confirme là, qu'on a le sommeil très léger, on ne peut plus troubler. Les raisons sont nombreuses. Bien sûr, la pandémie arrive en tête de liste de ces raisons-là depuis près d'un an. Là, aujourd'hui, on se ramasse avec des chiffres assez incroyables. On n'a jamais vu ça. Plus de la moitié de la population qui dit qu'elle a des gros problèmes à dormir. Les gens dorment pas bien. Évidemment, le recours aussi aux somnifères fait en sorte que on peut avoir des rêves troublés. Mais souvent, quand on pense à sommeil, on pense à rêve, Nicole.
Oui, absolument. Donc, une fois endormi, il y a les séquences de rêves qui se manifestent tout au long de la nuit, de 4 à 6 rêves pour chaque personne durant la nuit. Donc, on peut se rappeler le matin, ramener de l'information, des intuitions, etc.
Dans votre anti-dictionnaire des rêves, pour un peu auto-analyser, décoder nos rêves, c'est toujours intéressant, là. Je lisais ce matin qu'il y avait à peu près une dizaine de thèmes qui reviennent toujours. Est-ce qu'on rajouterait un thème rêve de pandémie, vous diriez, en ce moment, Nicole Graton?
Oui, Isabelle, effectivement. Moi, je le vois depuis quelques mois. Là, il y a une recrudescence de demandes d'informations sur les rêves. Parce que parmi les fonctions des rêves, alors au moment où on réussit à s'endormir, il y a pour faciliter l'adaptation. Et comme on est en condition d'insécurité perpétuelle à cause de la pandémie, des mesures sanitaires, etc., donc le rêve permet de mieux s'adapter, permet d'évacuer le stress de jour. Donc, toutes les craintes qu'on a par rapport à la fois tomber malade, l'insécurité financière, le travail, est-ce que ça va reprendre, etc. Mmh. Donc, ce qui fait qu'on évacue d'abord en début de nuit ce stress-là pour ensuite avoir des rêves de créativité, des rêves de solutions. Donc, comment la personne qui s'inquiète par rapport à son travail, que puis-je faire maintenant pour avoir des revenus supplémentaires? Est-ce que je vais garder mon emploi? Mmh. Comment organiser mon horaire? En télétravail, entre autres. Donc, les rêves viennent ici, je dirais, secourir la personne dans son questionnement, dans ses doutes, dans son anxiété. Mais à ce moment-là, le truc, Isabelle, c'est simple. C'est parce que là, je vais rajouter au phénomène que M. Godbout disait, là,
ouais.
Mode d'acceptation du sommeil, mais mm-hmm. c'est aussi mode d'acceptation des solutions. Parce que lorsqu'on dit « la nuit porte conseil », alors tout ce qu'il suffit de faire, c'est de noter sur un bout de papier « OK, cette nuit, je trouve la solution à tel problème. Cette nuit, je vérifie si je m'engage dans telle nouvelle activité. » Donc, le fait de clarifier l'intention avec laquelle on ouvre la porte au sommeil créatif, qui est le sommeil de rêve, ça permet à ce moment-là de calmer le mental en disant « Garde, je dors là-dessus », comme on dit « la nuit porte
ouais,
conseil
ouais. ». Je dors là-dessus, ça c'est très québécois comme expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On dort là-dessus, on y pense, on verra demain matin.
Voilà.
Ouais.
Et le lendemain matin, on réveille, on garde les yeux fermés, on porte notre regard sur la nuit et on dit « quelle solution est venue, quelle réponse, quel éclaircissement ».
Et ça marche reçu. Ça, Nicole, ça?
Oh, Isabelle, c'est incroyable de ce temps-ci. En tout cas, avec la pandémie, moi, j'ai des témoignages à tous les jours
mm-hmm.
que justement, devant l'insécurité, l'incertitude, les réponses viennent, les détails, une idée qu'on n'aurait jamais pensée de jour avec notre conscience éveillée,
ouais.
capacité limitée, alors que la nuit, la conscience de nuit à l'état de rêve, c'est comme une vision à 360 degrés. Donc, on voit l'avant, on voit le pendant, on voit l'après. Ça amène aussi des rêves prémonitoires dans lesquels on sait que, il va se passer telle chose, donc j'aurais intérêt à poser tel geste.
Mmh. Je pense que le rêve prémonitoire, souvent, c'est celui qui est le plus inquiétant parce que s'il est bon, on est content, mais si c'est un rêve qui génère
qui
des questions, oui, qui est dérangeant,
ben,
on peut être très inquiet, là.
Oui, mais à ce moment-là, c'est un signal d'alarme.
Mm-hmm.
Alors, j'aime mieux, moi, savoir par un rêve dérangeant que, oups, c'est pas le bon geste que j'ai posé aujourd'hui, c'est
ouais.
pas la bonne décision que j'ai prise.
Mm.
Alors, même les cauchemars deviennent utiles, surtout en cette période-ci. Ben, d'ailleurs, plus de cauchemars à cause de l'anxiété, donc c'est l'évacuation du stress de jour, toutes mes peurs, s'il fallait que je perde ceci, s'il fallait que...
Ouais.
Mais après la période d'évacuation du stress, c'est la période de créativité avec des solutions.
Mm-hmm. On va aller voir ce que rêvent, ce dont rêvent nos auditeurs. Ghislaine se réveille. Elle rêve beaucoup, dit-elle. Et Ghislaine, bonjour. Vous vous en souvenez, vous, le matin, chanceuse? Vous en souvenez?
Oui, bonjour. Oui, moi, je rêve souvent, pratiquement toutes les nuits. Puis je me lève le lendemain matin, puis c'est clair, mes rêves. J'ai souvent les mêmes rêves qui reviennent,
mm-hmm.
mais c'est pas par rapport à la pandémie. Là, moi, je dors très bien. Et puis, je rêve, entre autres, j'ai arrêté de travailler. Je suis à la retraite depuis 9 ans.
Ouais.
Et puis, je rêve souvent du travail. Je suis au travail. Puis là, je dois prendre ma retraite, mais je lui dis, je m'en vais là. Mais là, il me trouve du travail. J'arrive pas à partir de mon travail.
Mm. Est-ce que ça
va ça souvent?
Ouais, c'est drôle. Nicole Graton, est-ce que c'est un signe que Ghislaine devrait peut-être avoir un petit travail à temps partiel, qu'elle s'ennuie du travail? Ou...
oui. Donc, au premier niveau, effectivement, on pourrait penser cela. Mais en fait, ça devient symbolique qu'est-ce qui vous fait travailler dans votre tête, Ghislaine? Ça peut être, y a-t-il des situations dans votre vie de jour qui génèrent en vous le même, je dirais, la même angoisse de produire quelque chose, de répondre aux besoins des autres? Alors, à ce moment-là, la symbolique récurrente du travail veut juste vous dire, vous travaillez, vous, sur quelque chose dans votre vie de jour, que ça peut être par rapport à vos loisirs, par rapport à vos communications relationnelles, etc. Mais c'est normal que le rêve réutilise l'espace, le lieu du travail comme symbole de dire sur quoi je dois travailler en ce moment dans ma vie, émotionnelle, mentale ou spirituelle.
On va aller à la pause. Merci, Ghislaine. On va poursuivre avec vos questions concernant les rêves que vous faites en ces temps des pandémies. On sait qu'on a le sommeil parfois léger, beaucoup de gens qui dorment mal, mais les rêves, parfois, peuvent nous indiquer certaines choses. C'est fort intéressant, en tout cas, de discuter de tout ça. 514-790-9850 1-866-790-9850. On est sur vos empêchements nombreux en ces temps de pandémie à dormir. Il y a beaucoup de gens là, qui sont affectés par toutes sortes de choses et plus que d'habitude. On le sait bien, cette pandémie est une source de stress incroyable. Et la façon dont on rêve aussi est influencée par ça. Joe, bonjour. Vous rêvez toujours de la même chose. Vous rêvez, c'est pas rien votre rêve, là.
Non, je rêve que je suis en bonne santé en général, puis je rêve que je vais mourir bientôt.
Mais est-ce que c'est une mort de maladie ou c'est une mort violente?
Non, non.
Juste
non, non, une mort.
Vous mourrez.
Je serai plus là bientôt.
Mais
je meurs, je serai plus là bientôt.
Et est-ce que vous voyez mourir dans l'action de mourir? Vous voyez comment ou c'est quoi comme genre de rêve de je meurs?
C'est surtout une peur.
Comme une pensée mort, que vous mourrez, vous êtes mort.
Okay. Oui, Nicole. Oui, que ça s'en vient, que le tic-tac s'en vient, et ça, je le vivais avant la pandémie, et je m'excuse de rajouter ça, peut-être ça va mélanger un peu, brouiller les cartes, et c'est pas mon but. Je rêve à de grands conflits avec mon père également, et je m'entends très bien avec mon père en général, mais de violentes chicanes.
Alors, ah oui, Nicole Graton peut-être. Oui, Nicole pour Joe.
Oui, alors tout d'abord, le symbole de mourir à l'état de rêve, c'est un symbole de transformation. Alors donc, c'est une façon de prendre conscience que l'ancien personnage que nous étions est en train de mourir, donc de s'évaporer pour faire place à une nouvelle attitude, un nouvel état de conscience. Et on sait que justement la pandémie nous transforme d'une façon radicale dans nos croyances, dans notre façon de voir la vie, de se repositionner par rapport à notre rôle, notre mission personnelle.
Et ça, c'est intéressant, Joanne, juste parce qu'il nous reste peu de temps, mais quand on rêve de mourir, ça ne veut pas dire que on va mourir, là. C'est pas forcément prémonitoire et souvent, c'est au contraire quelque chose de positif même.
Positif, transformation, le vieux moi qui décède pour faire place à une nouvelle attitude, un nouvel état de conscience. Et puis, l'autre, par rapport à la dispute avec son père, Joe, à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'y a-t-il quelque chose à l'intérieur de soi qui a un conflit intérieur avec l'autorité, si le père représentait l'autorité, dans laquelle il est temps de s'affirmer, de prendre sa place. Donc, ça peut être, c'est pour ça que la mort ici est vraiment vient confirmer que, en réglant les conflits intérieurs, on peut renaître à un nouvel aspect de soi avec plus de liberté et plus de légèreté face à tous les conflits qu'on a vécu jusqu'à ce jour.
Merci, Jo, pour cette question. Joanne, bonjour. À quoi rêvez-vous en ce moment?
Un rêve récurrent, c'est un vol de sacoche. Et c'est la panique. Je viens toute tremblotante, en sueur. Je pense à mes cartes, les cartes de crédit, cartes d'assurance maladie, etc.
Nicole?
Oui, c'est bien parce que justement, ce rêve récurrent-là de perdre son sac à main, sa sacoche, ses cartes, encore là, c'est un symbole de changement d'identité. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est prête à renouveler une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se voir, d'être vu par les autres. Donc, un changement d'identité. Puis ça, ce rêve-là, je l'ai fait tellement souvent, moi, quand j'ai changé de partir de la campagne, venir étudier à Montréal. Mm-hmm. Donc, je rêvais constamment. Alors, c'est aussi un rêve de transformation qui est en train. Alors, c'est d'en arriver à être à l'aise dans le rêve, de dire, ah, ben, coudonc, je vais me refaire faire des nouvelles cartes, une nouvelle identité. Oui.
Merci, Joanne, de votre rêve. Il y a Colette qui me dit que sa mère est morte en 2019 à 95 ans et elle a retrouvé plusieurs cartables où elle voyait que sa mère écrivait tous ses rêves. elle les écrivait même apparemment, parce qu'elle l'avait dit à sa fille Colette, pendant la nuit, et elle avait beaucoup de rêves prémonitoires. Elle dit, je me suis rendu compte, en tout cas, que ma mère, elle devait pas se reposer beaucoup, finalement. et Colette aussi, il y a Sophia, pardon. Colette posait aussi une question par rapport à ses rêves à elle. Elle dit, je me retrouve souvent dans les mêmes lieux que je connais pas. Elle dit, je vais-tu y aller ou c'est quoi ces rêves-là rapidement, peut-être, Nicole?
Oui, les mêmes lieux qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est une invitation à accepter l'inconnu, l'incertitude, de se retrouver dans des espaces qu'on ne connaît pas, mais qu'ils vont devenir familiers avec le temps. C'est un peu l'attitude à laquelle nous, on est confrontés actuellement. Dans les conditions actuelles, c'est complètement nouveau et inconnu. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un questionnement qui tend vers « oui, j'y vais » ou « non, je vais attendre » Alors, tout dépend de la fin du rêve et du sentiment final qui est ressenti. Si pour Colette, elle se sent bien dans cet espace inconnu, c'est comme une adaptation qui est favorisée la nuit à l'état de rêve pour mieux faire face à l'inconnu qui nous attend actuellement face à toutes les conditions actuelles.
Ben, c'est une bonne conclusion à notre sujet. Merci beaucoup, Nicole Gratton. On se souvient, donc on note, on clarifie notre intention le soir. Là, on note ce qu'on veut clarifier. Puis le lendemain matin, on essaie de trouver un peu la lumière là-dedans, dans le rêve dont on arrive à se souvenir. C'est un bel exercice à essayer. Merci beaucoup, Nicole Gratton, est directrice de l'École internationale des rêves. Elle a écrit plusieurs livres. Allez vous en chercher, vous allez voir, c'est vraiment fascinant. On se retrouve après les nouvelles.